VOA Afrique.
Très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Jacques Aristide avec vous en direct depuis New York. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Un procès pour l'histoire. Jugé à Dakar par un tribunal africain, l'ex-homme fort de N'Djamena a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viols et tortures. Il a été condamné à la prison à vie, une première en Afrique. Le procès Habré peut-il servir de modèle? Les dirigeants africains seront-ils davantage tentés de revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale? Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Après 10 mois de procès dans la capitale sénégalaise, les chambres africaines extraordinaires ont donc tranché lundi dernier. Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, écope de la perpétuité pour de graves crimes internationaux. Un de ses avocats entend interjeter appel. C'est la première fois au monde qu'un chef d'État est traduit devant une juridiction, un ex-chef d'État d'un autre pays pour violation des droits de l'homme. Nos invités nous feront part de leur point de vue tout à l'heure, mais d'emblée, retour sur les temps forts de ce procès avec Timothée Donongmaï.
Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
C'est par des cris et des larmes de joie que les victimes de l'ancien président tchadien ont salué sa condamnation. Clément Abaifouta, président de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré, dit n'avoir jamais perdu espoir.
Nous nous sommes battus et voilà le summum, nous sommes arrivés au summum, n'est-ce pas, de notre sacrifice. Donc, hurrah pour nous.
Souleymane Guinguin, fondateur de cette association.
Mais ce qui me fait mal, j'ai beaucoup de collègues qui sont morts en chemin, ils n'ont pas vu voir ces résultats. C'est pourquoi j'étais ému et je pleurais, mais c'est une satisfaction totale.
Même sentiment chez Fatimé Tiangdoum, une autre victime.
Moi, c'est la condamnation de Hissène Habré qui m'intéresse. Ce n'est pas l'indemnisation. L'indemnisation viendra après.
Le camp de l'ancien président tchadien estime pour sa part que son client a été victime d'une grossière injustice. Maître Ibrahima Diawara est l'un des avocats officiels de l'accusé.
Nous sommes très déçus parce qu'avec tout ce qui a été fait, le déroulement du procès, la manière dont nous avons rapporté la preuve de l'innocence du président Habré en face d'une accusation défaillante qui n'a rien pu prouver et qui a même demandé à la Chambre de mettre entre parenthèses tous les débats d'audience qui n'ont rien apporté, eh bien nous nous attendions à un verdict d'acquittement.
Pour Maître Hassan Diouwa Ndiaye du collectif des avocats des partis civils, rien ne sera plus comme avant en Afrique.
C'est un exemple très fort qui est lancé aujourd'hui à tous les tenants de pouvoir en Afrique et ou à tous ceux qui aspirent à un pouvoir. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus commettre des violations massives de droits humains sans, en toute impunité et dormir tranquille.
Les États-Unis saluent un tournant dans le combat mondial contre l'impunité. Todd Borchwald, coordonnateur spécial pour la justice pénale internationale du département d'État.
Ce jour n'aurait pas été possible sans la coopération du Tchad, du Sénégal qui a accueilli le procès. Ce qui n'est pas une chose facile à faire, et l'Union africaine. Cela est certainement très encourageant.
L'ONG Human Rights Watch a apporté un concours décisif à l'action judiciaire des victimes d'Hissène Habré. Reed Brody en est le porte-parole.
Je pense qu'aujourd'hui, ça a gravé dans l'histoire comme le jour où un groupe de survivants déterminés a réussi à traduire en justice leur dictateur.
Timothée Donangmaï, VOA Afrique, Washington.
L'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, Abdallah Chidi Diorkodey, chef de file de l'opposition tchadienne aux États-Unis. À Montréal, Mahamat Ali Youssouf, auteur du livre Le camion à cabine jaune de Hissène Habré. à Paris. Henri Tulliez, chargé de mission à Human Rights Watch pour l'affaire Abré. Et à Washington, nous retrouvons mon collègue Timothée de Nongmaï. Timothée, je commence par vous. Vous-même, vous êtes d'origine tchadienne. Hissène Abré, aujourd'hui à 73 ans, a dirigé le Tchad pendant 8 ans. Retracez-nous la trajectoire de cet homme accusé d'être devenu un bourreau.
Alors, Jacques, ce qu'on peut retenir du parcours d'Hissène Abré, c'est qu'il est né en 1942 à Faya-Largeau, dans le nord du Tchad. Après des études supérieures en France, il rejoint la rébellion du Frolina, le Front de Libération Nationale du Tchad, en 1972. En 1974, il prend en otage l'ethnologue française Françoise Clostre et l'allemand, le français Marc Combes et l'allemand Christophe Steinwen. En 1975, c'est le coup d'État au Tchad. Les militaires assassinent le président Garta Tombalbaï et installent le général Félix Maloum comme président. En 1978, accord de réconciliation nationale. Abré devient premier ministre sous le régime du général Félix Maloum. En 1979, Abré est ministre de la Défense du gouvernement d'Union nationale de transition, le GUNT, dirigé par Gukuni Wédey. 1979, c'est la guerre de N'Djamena, rupture avec Gukuni Wédey et création du Conseil de commandement des forces armées du Nord, CCFAN, avec pour commandant en chef Idriss Déby. 1980, intervention libyenne au Tchad, chassé de N'Djamena, le CCFAN se regroupe au Soudan. Et en 1982, une offensive du CCFAN chasse le gouvernement d'Union nationale de transition. Hissène Abré devient président. 1987, avec l'appui de la France et des États-Unis, Hissène Abré chasse les Libyens du nord du Tchad. 1989, Hissène Abré accuse Idriss Déby, Hassan Djamous et Ibrahim Mahamat Itno de complot. Idriss Déby part pour la Libye, puis le Soudan, où il forme le mouvement patriotique de salut, MPS. Et en décembre 1990, le MPS chasse Hissène Abré de N'Djamena. Ce dernier se réfugie à Dakar, au Sénégal. Idriss Déby Itno devient président. Voilà, Jacques, ce qu'on peut retenir du parcours d'Hissène Abré.
Quelques repères importants. Merci bien, Tim, et vous restez avec nous, évidemment. Henri Tulliez, je me tourne vers vous pour Maître Diawara, que nous avons vu dans le reportage tout à l'heure. Il est l'un des avocats officiels de Abré qui se sont conformés à la volonté de leurs clients de boycotter son procès. Eh bien, pour lui, il ne s'agit pas d'un jugement rendu dans les règles de l'art avec des faits et une motivation strictement juridique. C'est un jugement politique fondé sur la relecture de l'histoire du Tchad, dit-il. Dessein politique, de telles accusations risquent-elles d'entacher ce procès, ce verdict qualifié d'historique ?
Non, je ne pense pas. Je pense que l'argument de Maître Diawara est de bonne guerre. Vous savez, les avocats d'Hissène Abré avaient toute la possibilité, pendant toute l'instruction, de proposer des témoins, de demander au juge d'instruction de nommer des experts, d'avancer des preuves, etc., même de contredire les témoins qui étaient interrogés. Monsieur Hissène Abré s'est contenté de boycotter la procédure et a manifestement demandé à ses avocats constitués de ne pas participer au procès. Maintenant, il ne faut pas oublier que la décision que le juge a lue lundi dernier, c'était un résumé et non pas la décision en entier. Il y aura donc bien évidemment bien plus d'arguments juridiques qui seront détaillés. Mais en ce qui concerne une soi-disant relecture de l'histoire politico-tchadienne, politico-militaire du Tchad, je ne suis absolument pas d'accord, évidemment, puisque de nombreux faits ont été étayés pendant le procès. Comment peut-il dire qu'on ne parle pas de faits quand on évoque la déportation de femmes dans le Nord, puis leur réduction en esclaves sexuels ? Comment on peut dire qu'il n'y a pas de faits quand on évoque le taux de mortalité dans les prisons de Hissène Abré par un expert qui a été engagé, extrêmement sérieux, et qui a regardé tous les certificats de décès qu'il pouvait trouver ? Comment peut-il dire qu'on ne s'intéresse pas aux faits quand on regarde l'organisation des différentes commissions qui ont permis la répression contre les ethnies Adjaraï, Zarawa ou dans le Sud ? Ouais. Donc, à mon avis, ils se trompent en disant que les faits n'ont pas été prouvés.
Oui, alors ces mêmes avocats accusent l'ancien collaborateur d'Hissène Abré, qui n'est autre que le président Idriss Déby Itno, d'avoir tout fait pour faire juger Abré. Toutefois, des observateurs font remarquer que le Tchad a néanmoins refusé d'extrader vers le Sénégal deux agents qualifiés de tortionnaires du régime Abré, Saleh Younous et Mahamat Djibrin, pour éviter des révélations qui auraient pu atteindre l'actuel chef de l'État lui-même. Alors rapidement, c'est donc un homme ou tout un système qu'il fallait juger ?
Écoutez, la responsabilité pénale est individuelle, elle n'est pas collective. Donc là, il y avait un homme qui a été jugé, et je pense qu'il a été jugé au cours d'une procédure tout à fait juste et équitable. Et d'ailleurs, personne d'autre que les avocats constitués de Hissène Habré viennent contester le caractère équitable de cette procédure. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu un procès au Tchad où 20 anciens agents de la DDS, donc de la Direction de la Documentation et de la Sécurité, la police politique de Hissène Habré, ont été jugés, dont Saleh Younous et Mahamat Djibril El Jonto, qui ont été condamnés à des peines à perpétuité. Enfin, je crois que la personne qui était la mieux placée pour évoquer la responsabilité de Idriss Déby et Itno, c'est bien Hissène Habré lui-même. Or, il s'est contenté de rester silencieux pendant toute la procédure. Donc, je crois vraiment que si Idriss Déby avait voulu éviter que des preuves soient délivrées contre lui pendant le procès, il aurait dû d'abord faire en sorte que Hissène Habré ne parle pas, ce qui s'est passé. Mais je ne pense vraiment pas qu'Idriss Déby a essayé d'utiliser ce procès ou quoi que ce soit. Pour avoir travaillé dans la procédure, j'ai bien pu réaliser qu'on n'a pas eu un soutien ouvert de Idriss Déby pour travailler et pour enquêter et pour accompagner les victimes dans ce procès.
Timothée ?
Que c'est tout de même étrange qu'on n'ait pas recueilli le témoignage du président Idriss Déby Itno, qui a longtemps cheminé avec Hissène Habré. Ils se sont séparés un an seulement avant qu'Idriss Déby Itno ne revienne à N'Djamena pour le chasser. Le président tchadien, l'année dernière, avait lui-même dit qu'il était prêt à aller à Dakar témoigner dans ce procès, mais personne n'a songé à recueillir son témoignage.
Mahamat Ali, d'après vous, la culpabilité de Habré a-t-elle été établie de façon irréfutable au cours de ce procès ?
Moi, je pense que, bon, pour revenir au début du procès, je pense que Hissène est un dictateur, est un autoritaire, tout le monde est d'accord sur ce point. Mais Hissène a géré le Tchad avec un gouvernement, avec un parti unique, et avec le service de DDS, d'augmentation, service de la police politique de ce régime. Donc si on juge, c'est-à-dire nous, en tant que victimes, nos assaillants sont là encore, nos victimes sont là, ils occupent des fonctions importantes au Tchad, et ils ne sont pas inquiétés. Donc ces personnes, nous on voit tous les jours nos assaillants et on n'a pas la force, notre force est la justice. Alors que comment un conseiller de la présidente de la République et chef d'état-major et qu'il n'ait rien dans cette affaire. Donc oui. Moi, je pense que ce procès, on le salit. C'est la première fois en Afrique. C'est une initiative africaine. Mais ce n'est pas, oui. C'est pas
d'ailleurs,
achevé.
On reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Alors, Abdallah Djorkodey, vous qui êtes un proche d'Hissène Habré, vous rejetez évidemment ce procès et le jugement qui s'en est suivi. Pourquoi ?
Bon, pour être contre ou bien pour une chose, il faut que la chose existe. Et jamais un procès équitable et juste a existé. Donc, nous avons fait face à un procès politique. Nous avons fait face à un complot international ourdi par la France-Afrique. Donc, nous sommes face à une liquidation politique d'un homme, un résistant africain, un patriote. Personne ne peut douter de sa détermination pour la libération du Tchad. Bon, pour parler de ce procès... S'il y a eu un procès, je pourrais vous dire, je serai contre ou bien pour, mais il n'y a jamais eu un procès. Nous avons assisté à des témoignages, c'est-à-dire de faux témoignages, de faux en faux, de faux après faux. D'abord, il faut essayer de voir la création des chambres africaines extraordinaires que l'ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, a présenté un faux document comme quoi l'ancien Premier ministre l'a délégué, c'est-à-dire des pouvoirs pour pouvoir signer cet accord. Et le Premier ministre a dit non, il n'a jamais, c'est-à-dire délégué des pouvoirs à quiconque d'aller signer à son nom des documents pour la création des chambres africaines. Déjà que ces chambres africaines extraordinaires ne sont pas légitimes. Alors, est-ce que nous pouvons parler d'un procès?
Bon, procès quand même, c'est lui qui a décidé de garder le mutisme. Mais maintenant, attendez, une commission d'enquête indépendante au Tchad avait déjà directement imputé au régime Abré la mort brutale de 40 000 personnes. 200 000 autres ont été victimes de tortures et violences. Alors, vous voulez dire que Abré n'avait rien à voir avec ces crimes?
Je voudrais vous dire une chose. Quand vous parlez des commissions d'enquête, qui a créé cette commission? Qui est derrière cette commission? Il faut d'abord connaître les personnes, c'est-à-dire qui sont impliquées dans cette commission pour pouvoir savoir s'il y a eu une commission d'enquête. Monsieur le Président, c'est-à-dire Habré, il faut connaître en quelque sorte son passé juste en une minute. C'est-à-dire pour nous, le président Habré a été un cadeau qui est venu tout droit du ciel vers le peuple tchadien. C'est-à-dire à une époque donnée, on était massacrés, marginalisés, terrorisés par les anciens présidents. Hein? On coupait les seins de nos femmes, donnés aux chiens. Nous n'avons même pas la liberté de sortir. Nous ne pouvons même pas aller chercher de l'eau. Hein? Des militaires qui nous traquent dans les maisons, on nous combat, on nous tue, on nous intimide. On prend nos filles de 12 ans à 13 ans, on les transporte jusqu'à N'Djamena. On nous force et on nous a forcés à exiler même notre sultan. Le Durda de Tibesti a été contraint de quitter sa terre, c'est-à-dire sa patrie, parce que des militaires qui ont occupé, c'est-à-dire le nord du Tchad. Et puis, il y a des leaders qui ont signé des pactes sataniques avec la Libye de Gaddafi. Ils ont vendu notre terre aux Libyens et encore, ils ont vendu notre dignité. Et de ce temps, Dieu nous a envoyé un cadeau pour pouvoir rassembler.
Un cadeau, mais pour beaucoup, pour des millions de Tchadiens, l'homme s'est transformé en tortionnaire.
Il y a une chose, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, écouter les Tchadiens. Mais quand on crée une commission qui est encadrée, qui a une feuille de route à suivre, comment vous pouvez savoir la réalité sur le terrain? Il faut créer une commission indépendante, digne de nom, mais pas une commission qui est derrière la France-Afrique. On vous guide, faites ceci,
faites
cela. Mais
il y a des faits qui sont là, qui n'ont pas été inventés.
Non, il y a une chose, c'est-à-dire que je ne peux pas insulter, c'est-à-dire les victimes, parce que le président Habré a été président du Tchad. Si jamais il y a des Tchadiens qui se sentent victimes et s'ils veulent porter plainte contre le président, il faut créer des conditions transparentes, des conditions, c'est-à-dire indépendantes et libres, pour que les Tchadiens viennent eux-mêmes témoigner. Mais quand vous assistez à des contradictions, une histoire à N'Djamena, une autre histoire à Dakar, et c'est des contradictions. Et c'est-à-dire des victimes créées de toutes pièces, on leur donne des faits, c'est-à-dire des routes à suivre. Dites ceci, dites cela. Et là, c'est-à-dire comment une personne puisse oublier une histoire vécue, un événement que toi-même tu as vécu.
Alors, évidemment, il y a différents points de vue. Vous êtes là pour certains points de vue. Alors, Timothée, Henri Tulliez a parlé un peu de ça tout à l'heure. Donc, on a beaucoup parlé au procès Abré de la direction de la documentation et de la sécurité, la DDS. Rapidement, qu'en savez-vous?
Alors, Jacques, j'ai vécu à N'Djamena au moment sous le régime Hissène Habré. La DDS était la police politique d'Hissène Habré. Elle était omniprésente, mais on savait très peu de choses de ses activités. Parce que dès l'instant où vous saviez, vous étiez en danger. En fait, moi-même, j'en ai fait l'expérience une fois quand je suis allé dans un bureau de la sécurité pour récupérer la carte d'identité d'une amie camerounaise qui avait été confisquée à la frontière. Eh bien, il y a un policier qui me connaissait au quartier. Quand il m'a vu là-bas, il était horrifié. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit, il est allé chercher la carte d'identité, me l'a remise. Et il m'a dit, c'est pas un endroit où vous devez vous attarder, parce que c'était un endroit très dangereux. Donc, c'était un système qui réprimait les Tchadiens et ceux qui ont vécu au Tchad en ce moment-là peuvent en témoigner.
Voilà, je vous prie de rester avec nous. À venir, les commentaires Facebook avant de retrouver nos invités. Washington Forum revient dans quelques petits instants. Jacques Aristide, de retour avec vous. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Que va changer le procès Abré en Afrique? En tout cas, le débat chauffe déjà. C'est ce que nous allons aborder dans cette seconde partie. Mais d'abord, quatre de vos nombreux commentaires Facebook. On commence par Foka Mapine de Mundu, Tchad. Chaque leader africain doit se voir mortel. L'union entre les troupeaux amène le lion à dormir affamé. C'est pour dire que le peuple ne peut pas se laisser menacer à tout moment. Attention, chaque responsable peut être jugé. Khalil Ahmad de Luanda, Angola. À mon avis, cette procédure ne doit pas être l'exemple pour tous les chefs d'État qui violent les droits de l'homme. On a toujours tendance à pratiquer une justice à deux vitesses en Afrique, y compris par la CPI. Godard Dondele Makwiza de Mbaza, Gungu, RD Congo. Je suis tout à fait d'accord que les dirigeants africains soient jugés en Afrique qu'à la CPI. Et Abdoulaye Barry de Conakry, Guinée, une très bonne chose pour l'Afrique. Nous sommes à la croisée des chemins. Le Sénégal a montré l'indépendance de sa justice. Peut-être un jour, M. Abré pourra être pardonné. Mais justice a été rendue et la vérité a triomphé. Et sans plus tarder, nos invités nous rejoignent pour continuer la discussion en direct de Paris. Henri Tuiliez, chargé de mission à l'ONG Human Rights Watch pour l'affaire Abré. De Montréal, Mahamat Ali Youssouf, auteur du livre Le camion à cabine jaune de Hissène Abré. Ici à New York, Abdallah Chidi Djorkodey, chef de file de l'opposition tchadienne aux États-Unis. Et depuis Washington, Timothée Denongmaï, managing editor à VOA Afrique. Timothée, s'il y a un adjectif qui est revenu comme leitmotiv pour qualifier le procès Abré, c'est bien le mot historique. Pourquoi ce procès a-t-il été historique, pas seulement pour le Tchad et la région, mais aussi pour l'Afrique en général et même peut-être au-delà du continent?
Alors Jacques, procès historique parce que pour la première fois, l'Afrique s'est réunie et a décidé qu'un ancien leader africain doit être jugé en Afrique et par des Africains. Historique également parce que ce procès a eu lieu à l'initiative des victimes de Hissène Abré. Sinon, il y a eu des procès d'hommes d'État, d'anciens hommes d'État en Afrique. Il y a eu le procès de Bokassa en RCA. Hissène Abré lui-même a été condamné à mort à N'Djamena par contumace. Donc il y avait ce procès-là, mais ce qu'il y a de nouveau ici, c'est que c'est l'Afrique qui a décidé que ce procès doit avoir lieu.
D'ailleurs, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a comparé cette condamnation à celle prononcée par la justice internationale contre l'ex-président libérien Charles Taylor et l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić. Il a loué l'accord entre l'Union africaine et le Sénégal. Excellent exemple d'appropriation régionale du combat contre l'impunité pour les crimes internationaux, dit-il. Partagez-vous cet avis, Henri Tuiliez?
Oui, bien sûr, à une époque où le monde est particulièrement meurtri par des crises, que ce soit par exemple en Burundi, en Syrie, ou les crises migratoires qui ont lieu en ce moment dans la Méditerranée, le procès de Hissène Abré est un espoir, car il montre qu'il y a des choses qui sont possibles, elle montre qu'un groupe de victimes déterminées, avec obstination et qui ont fait des enquêtes incroyables, sont en mesure de traduire en justice un ancien dictateur. C'est aussi un nouvel espoir, car cela montre que les juridictions africaines, les juridictions nationales, avec l'aide de l'Union africaine et d'autres pays, sont en mesure de traduire en justice un ancien président. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois que l'on a, grâce à la sur la base de la compétence universelle, le procès qui est mené jusqu'au bout d'un ancien chef d'État. Avec ce procès, c'est la première fois que des juridictions nationales jugent l'ancien chef d'État d'un pays étranger. Donc c'est une mesure historique.
Mais attendez,
et nous espérons qu'il y aura d'autres affaires à Abré sur le continent.
Oui. Oui, mais attendez, votre ONG, Henri Tuiliez, nous l'avons entendu tout à l'heure, a accusé la France et les États-Unis d'avoir soutenu Abré. Il le considérait comme un rempart contre la Libye de Muammar Kadhafi, qui avait des visées expansionnistes sur le nord du Tchad. Mais pourquoi ce soutien n'a pas été abordé lors du procès?
Parce que le procès d'Hissène Abré était à propos des crimes qui ont été commis au Tchad, à propos de l'histoire des survivants et des victimes, et non pas de l'histoire de l'implication de la France ou des États-Unis. Hissène Abré aurait pu, lui, en parler de l'implication des États-Unis et de la France, mais il a préféré se taire. Je vous rappelle que les victimes qui ont été là, ou les témoins qui sont venus témoigner, eux ne connaissaient quasiment rien de l'implication de la France et des États-Unis. Alors il serait fortement bien que les États-Unis et la France s'intéressent et fassent des enquêtes en interne sur ce qui s'est passé passé exactement pendant les années Abré, comment a eu lieu, comment se sont déroulées les relations entre ces pays et le Tchad, mais le procès, c'était le procès de Hissène Habré, ce n'était pas le procès de la France ou des États-Unis.
Mahamad Ali, la création des chambres africaines extraordinaires à l'initiative de l'Union africaine est-elle exemplaire? L'Afrique est-elle en train de montrer sa détermination de juger les crimes commis sur son territoire?
Bon, on est en train de lutter contre l'impunité, donc la chambre extraordinaire, c'est l'espoir, donc on croyait qu'aller très loin avec de tous les épisodes où tous les crimes en Afrique, on voit donc, on perd d'espoir, donc on voit seulement dans ces procès, on a obtenu compte seulement des 3 cas. Les épisodes, les crimes qui ont commis au Tchad, trois crimes. C'est-à-dire les crimes en 1984, les crimes de 1987 et 1998 où Idriss est sorti. C'est-à-dire le procès est taillé, comme le monsieur vient de dire, est bien taillé. C'est que Idriss ne veut pas se mêler dedans. C'est-à-dire ces trois épisodes. Moi, comme je suis victime en 82, depuis entre 82 et Hissène Habré, donc ce n'est pas considéré. Il y a plusieurs cas qui ne sont pas considérés. Donc, il essaie, pendant 10 ans, on a bloqué le processus pour voir comment il ne faut pas mêler Idriss Déby dedans. Donc, ça veut dire que c'est-à-dire ce qu'on a fait, on a assemblé les gens qui sont vraiment rigoureusement contre Hissène Habré, les Agawa, qui sont sortis en 98 après la fuite d'Idriss Déby vers le Soudan, et les Hedjaraï, c'était en 84, et les 87, c'est les Sara. Donc ces oui. trois communautés seulement, on a 200 quelques communautés.
Malheureusement, il nous faudra
trois communautés.
Répondre très rapidement, comme le temps fait défaut. Je vais me tourner vers vous maintenant, Abdallah Diorkodey. Bon, là, ces pays, on le sait, fait l'objet de beaucoup de critiques en Afrique, hein, accusés de néocolonialisme et de ne poursuivre que des Africains. En dépit de votre désaccord avec le procès Habré au Sénégal, pensez-vous que la procédure ayant trait à la compétence universelle veut dire que désormais l'Afrique peut éventuellement se passer des tribunaux tels que la CPI afin de juger ses dirigeants accusés de crimes atroces?
C'est une très belle question. Parce qu'il n'y a pas une différence entre la CPI et les chambres africaines extraordinaires. Pour moi, personnellement, je vois comme les chambres africaines extraordinaires comme une projection de la CPI en Afrique. Puisque si vous voyez un peu la composition des chambres africaines extraordinaires, c'est-à-dire les magistrats qui sont là, les personnes impliquées, c'est ce qui me fait rappeler un peu que c'est-à-dire la France-Afrique a changé de méthode. Quand vous prenez l'exemple de l'assassinat de Patrice Lumumba, puis de Thomas Sankara, là, à cette époque, ils ont une autre méthode, c'est-à-dire de finir avec la personne, c'est-à-dire tuer la personne. Mais là, ils ont vu que les Africains commencent à comprendre. Puisque les Africains voyagent, hein, ils étudient, hein, ils collaborent avec les autres. Mais ils ont dit, cette fois-ci, on essaie quand même de changer de méthode. Mm-hmm. Alors, il faut essayer de créer, hein, en quelque sorte, des procès. Aujourd'hui, vous trouvez de l'autre côté M. Gbagbo, c'est parce que quelqu'un qui a fait de la Côte d'Ivoire comme un petit Manhattan, et là, il essaie quand même de gérer l'économie du pays d'une façon un peu patriotique, et ce qu'ils n'ont pas voulu, ils l'ont mis dans l'autre côté. Et Hissène Habré, de son côté, c'est-à-dire le seul président tchadien qui a pu rassembler tous les fils et filles du Tchad pour arracher notre fierté, hein, notre dignité, hein, à rassembler tous ces hommes-là comme un seul homme, aller combattre la Libye. Hein, aller, c'est-à-dire finir avec ces traîtres qui ont signé des pactes sataniques avec la Libye.
En tout cas, Habré, aujourd'hui, vous dites, j'essaie, mais... Timothée, très rapidement,
non, c'est très vite,
rapidement.
Donc, par rapport à c'est-à-dire aux chambres africaines, oui. D'abord, ne sont pas légitimes, et la CPI n'est autre que les chambres africaines. Extraordinaire.
Voilà. Timothée, en deux mots.
Eh bien, Jacques, l'Afrique a ménagé la chèvre et le chou en misant sur un tribunal ad hoc, alors qu'on aurait pu s'attendre à un tribunal, à une cour permanente pour juger ce genre de crimes.
Mmh. Voilà, historique, certes, Henri Thuliez, deux mots, est-ce que vraiment maintenant ça permettra de servir comme modèle ?
Oui, on l'espère. Vous savez, les victimes de Hissène Habré, même si M. Abdallah Djorkadeï tente de dire qu'elles ont été achetées sans apporter aucune preuve, les victimes de Hissène Habré sont venues vers nous, sont venues vers Human Rights Watch avec les membres de la société civile tchadienne parce qu'elles étaient inspirées.
Et on imagine que pour les réparations,
oui,
attendez, malheureusement, on va continuer, on devra clore. Point final à ce Washington Forum, réalisé avec les équipes de Washington et New York. Merci à nos invités. Un clin d'œil à nos radios et télépartenaires, dont la RTI en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à New York. À bientôt. Take care.